École normale supérieure, savoir en multimédia.
Cher Olivier, alors je ne sais pas comment il faut que je présente, monsieur le ministre plénipotentiaire, cher ami, monsieur le directeur, c'est un très grand plaisir de t'accueillir, d'avoir à côté, d'abord ça nous rajeunit de quelques années, d'ailleurs ça se voit tout de suite, vous l'avez vu j'imagine, chers amis. Au premier cours sur la diplomatie culturelle, vous avez compris que la diplomatie culturelle c'était très large, et bien ici vous avez le représentant, c'est lui qui clôture notre cours, qui est passé par toutes les étapes de la diplomatie culturelle et qui a exercé à peu près tous les métiers de la diplomatie culturelle. Je l'ai vu visiter plus de 100 pays pendant ces 4 ans et demi, y compris les plus dangereux de la planète. Peut-être pas la Corée du Nord.
On
l'a pas fait, mais il ne dit pas encore dans ses nouvelles fonctions, il le fera peut-être. Il a inventé un tas de festivals. Il y en a un qui me fait toujours encore rêver, c'est les Nuits d'Encore. Il y a celui que vous connaissez à Toulouse, qui est le Festival des mots, le Marathon des mots, qui existe toujours, après lui, toujours encore, et qui est soutenu, j'imagine, par France Culture. Vous connaissez toute sa bio. Pour ceux qui ne font pas partie du cours, je vais quand même rapidement la parcourir. Il est donc Olivier Poivre d'Arvor et ministre plénipotentiaire diplomate. Il a été tour à tour acteur. Il est écrivain. Une trentaine d'ouvrages. Je ne sais pas quand il les a écrits, mais je sais qu'il ne dort pas beaucoup, parce que lui, c'est à 3h du matin qu'il écrit pour dire « t'es encore debout ». Il a exercé donc toutes les responsabilités possibles au sein de la diplomatie culturelle, directeur d'Institut français, conseiller culturel, directeur de l'AFA, l'ancienne AFA, bien, bien ancienne, cette vieille dame qu'il a transformée, rénovée totalement, qui est devenue Culture France. Et il a préparé quelque chose de beaucoup plus ambitieux que ce qui existe aujourd'hui, l'Institut français, puisqu'il prévoyait, et tout était prêt, faire un espèce de Goethe-Institut ou de British Council à la française. Il est aujourd'hui le directeur de France Culture, comme vous savez, et vient de créer, il n'y a pas longtemps, une web radio de référence qui s'appelle France Culture Plus, de référence pour les étudiants, les professeurs des universités, les grandes écoles, etc. Olivier, il faudrait une conférence, plusieurs conférences pour te présenter, mais tu n'es pas là pour ça. Je te passe la parole en te disant encore une fois le plaisir de t'accueillir.
Merci d'abord, tes mots extrêmement chaleureux et très exagérés, mais après tout, les compliments, on prend, surtout quand ils viennent d'un ami. Et merci de me donner l'occasion surtout d'avoir cet échange avec vous sur un sujet qui je pense, n'est pas encore complètement à la mode, mais qui, dans quelques années, en tout cas dans sa formulation, dans son concept, et puis peut-être dans son déploiement, y compris pour vos parcours personnels, je crois que ce sera très utile pour comprendre un peu mieux le monde et surtout pour en être, pour ne pas être complètement à côté des grands enjeux qui sont ceux qui s'annoncent. Donc voilà, merci et allons-y, essayons de parler de ce sujet. À vrai dire, c'est le pire moment pour en parler parce que le soft power, a priori, c'est le pouvoir doux, c'est la guerre douce. Et nous sommes, pas si souvent, là en ce moment, depuis 12 jours, nous, Français, en guerre. Donc, mais pas douce, guerre dure. Donc comment parler de la guerre douce dans un moment de guerre dure? Dans le fond, c'était pas si fréquent pour ce pays de repartir au combat et comment ce soir, alors qu'il y a des soldats français qui sont quelques milliers, bientôt 2500 qui sont au Mali, qui déploient au Mali, comment parler sur fond de retour de la menace terroriste, comment parler de cette guerre douce et comment vous faire entendre qu'il s'agit là d'un enjeu tout à fait majeur. Ben, ça tombe très bien justement parce que nous sommes dans ce moment de guerre dure et que ce dont nous parlons, Nord-Sud, Afrique-France, avec évidemment une perspective géographique et qui est celle d'un rapport de force et de civilisation entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, mais aussi un rapport qui est très marqué à l'histoire, qui est celui du colonialisme et donc d'un retour de l'intervention. Je dis bien l'intervention d'un pays autrefois empire et colon dans un pays autrefois soumis et colonisé. Donc on a là un certain nombre de questions, jamais comme ça que j'aborde le sujet du soft power, mais qui sont intéressantes dans le fond. On pouvait partir de Bamako. On est à Bamako ce soir et pas dans cette belle grande école fruit d'histoire française, mais on est à Bamako et on parle du soft power. Et on a en face de soi, non pas des étudiants français et roumains, je tiens à préciser, car tout, et d'autres certainement nationalités, mais nous avons affaire à des étudiants maliens. L'idée m'est venue il y a 3 minutes, hein, de cette entrée en matière, donc j'improvise totalement. Et on se dit, on va parler à des Maliens du soft power. Évidemment, ils ont d'autres préoccupations. La préoccupation toute simple de la possibilité d'être libre, de survivre à ce moment extrêmement douloureux de la construction d'une république, mais en même temps, ils peuvent entendre. Ils peuvent entendre parce que ce dont on parle, c'est finalement d'un combat pour un certain nombre de choses qui sont des valeurs. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est pour l'instant, des valeurs. Dans les questions d'ailleurs que vous aviez rassemblées, qui étaient très intéressantes, qui ont été préparées par quatre d'entre vous, il y a la question qu'est-ce que la culture ? Alors, on est au Mali, qu'est-ce que c'est que la culture ? Évidemment, on serait à Düsseldorf, ça serait différent. Kultur, c'est autre chose que culture au sens culturel français. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture pour un Malien ? C'est compliqué à dire, hein, parce qu'il peut à la fois faire référence à un certain nombre de cosmogonies qui sont celles du Mali, des ancêtres, et puis selon qu'on est peul ou pas peul, ça vous conduit évidemment vers d'autres histoires. Et puis en même temps, la culture, c'est la langue qu'on pratique, et cette langue, c'est quoi ? C'est Bambara ou c'est le français en l'occurrence. Donc là, la culture malienne est une culture à la fois construite sur un certain nombre d'histoires très anciennes, de récits très anciens, magnifiques pour la plupart, qui sont redécouverts aujourd'hui et qui sont l'objet d'enjeux importants, d'enjeux muséaux importants. Le Quai Branly, par exemple, va nous montrer les Dogons et les grands musées américains aujourd'hui nous montrent preuve à l'appui avec des masques, avec un certain nombre d'objets rituels sacrés de très grande beauté. Qui ne valaient pas grand-chose il y a encore 100 ans, mais qui maintenant sont des objets de spéculation. Donc là, culture, argent, tout d'un coup, les choses arrivent. Et puis mondialisation, puisque le Mali, à travers son histoire, la circulation de ces objets, devient, non pas la mode, mais devient, petit pays qu'il est, 6 millions d'habitants, devient un grand pays. Voilà, tout le monde sait, aux quatre coins du monde, les 192 pays de la planète qui sont recensés aux Nations Unies savent maintenant où est le Mali. Donc c'est l'avantage du sujet. De même, la Tunisie, qui est un petit pays, est devenue repérable et repérée. On a parmi nous vous êtes cartographe, c'est ça ? Donc quelqu'un qui, lui, sait où se trouve le Mali, la Tunisie, mais enfin, pas évident que dans le Kansas ou en Corée du Nord, on sache très très bien aussi de ces pays, là tout d'un coup, on les localise. Alors, cette petite introduction un peu surréaliste et rapide pour montrer que où qu'on soit aujourd'hui sur la planète, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit favorisé ou pas, qu'on soit sur le continent américain, africain ou d'autres, la question du soft power se pose, c'est-à-dire le rapport en fait d'influence et les rapports de puissance qui peuvent exister. Alors je reviens encore au Mali. Petite histoire, anecdote. Le Mali depuis longtemps essaie de construire une offre touristique. Ah, ça s'est raté maintenant évidemment pour quelques mois ou quelques années. Mais enfin, ils l'ont fait avec beaucoup de talent et partant d'une richesse qui est bien la seule qu'ils aient, parce que les grands fantasmes sur les enjeux énergétiques du Sahel, c'est valable pour l'Algérie, mais le Niger, certes, il y a des ressources, mais enfin, pas non plus, c'est pas les seules ressources en minerais de ce genre qui existent sur la planète. Quant au Mali, franchement, un peu de charbon, mais enfin, c'est pas un peu de diamant, mais c'est pas ça l'enjeu. Bon. Et c'est quoi finalement la richesse du Mali ? Vous allez vous dire que ce n'est pas le sujet de la conférence, le Mali, mais quand même, ça va le devenir. La richesse du Mali, c'est clairement cette culture, cette civilisation qui est arrivée jusqu'à nous et qui à la fois s'illustre dans des objets anciens, notamment ces Bandiagara, cette falaise magnifique, l'histoire des Dogons, tous ces objets dont je parle qui sont l'objet de spéculations. Il y a encore quelques années, le président de la République, Jacques Chirac, recevait pour son anniversaire un objet, je ne sais plus ce que c'était exactement, on pourrait retrouver une chèvre, je crois, ou un masque, je ne sais plus, pour son anniversaire. Ses collaborateurs avaient voulu faire plaisir. Et le président de l'époque, qui s'appelait Alpha Oumar Konaré du Mali, qui n'aimait guère la France, qu'il trouvait un peu interventionniste déjà, qui était d'ailleurs élevé en France, je crois qu'il est passé par ici, Alpha Oumar Konaré, prof d'histoire-géographie, très brillant, très à gauche, avait appris que cet objet qui lui avait été offert était un objet qui avait été volé sur un marché, je crois, à Tombouctou. Et donc le Mali avait protesté et le président de la République avait dû faire revenir l'objet qui lui avait été offert à titre personnel au musée de Bamako. Et le directeur du musée de Bamako, qui est un homme formidable, Samuel Sidibé, l'a exposé pendant longtemps dans une des salles principales du musée. C'est d'ailleurs au Mali qu'on trouvait encore jusqu'à quelques jours, parce que le musée est maintenant fermé. Les objets sont en caisse, prêts à partir pour le Quai Branly en cas de menace. Et ça a failli être le cas il y a 10 jours. Et le musée de Bamako est un des musées qui montre le mieux l'histoire de ces cultures africaines dont certains présidents de la République, il y a encore quelques temps, nous disaient qu'elles n'existaient pas puisque ces continents n'avaient pas d'histoire. Mais malheureusement, les objets font foi et apparemment, l'Afrique a une histoire. Et elle est entrée largement dans l'histoire. Et donc, la richesse du Mali, c'est du soft power. C'est principalement les quelques noms, si vous parlez du Mali, c'est, pour ceux qui connaissent la photographie, c'est des grands photographes comme Sédou Keïta ou d'autres aujourd'hui. Je cherche son prénom, ce n'est pas Samuel Sidibé, mais c'est un autre. Malik Sidibé, qui sont des grands photographes, qui sont des studiotistes dont les photographies valaient 10 francs à l'époque, il y a 20 ans, et aujourd'hui, facilement 10 000 dollars chacune. Ce sont des musiciens, Amadou et Mariam, Rokia Traoré, des grandes voix maliennes, qui sont connus à Bamako, mais sont connus aux États-Unis parce qu'ils enregistrent dans des studios à New York ou à Los Angeles. Et c'est évidemment toute cette culture-là qui certes ne valait pas grand-chose il y a encore 20-30 ans, mais qui aujourd'hui constitue un patrimoine, un objet d'admiration et de circulation et de spéculation culturelle au meilleur sens du terme. Je rappelle d'ailleurs que Picasso, pendant 15-20 ans, payait ses coupes de cheveux avec des tableaux. Ces tableaux, à l'époque, valaient, mettons, je sais pas, 1000 francs. Ils en valent aujourd'hui, ils valent aujourd'hui 1, 2, 3 millions. C'est la différence entre une œuvre d'art et une machine à laver. Bon, elle est évidente, sauf si c'est Duchamp qui s'occupe de ça. Mais enfin, une machine à laver, plus on l'utilise, enfin ça tient 2-3 ans, moins ça de valeur. Une œuvre d'art, a priori, si c'est réussi, ça prend de la valeur. Il y a donc là quelque chose qui nous échappe et qui, pour répondre à la question qu'on appelle, la question qui était posée ici, qu'est-ce que la culture? Peut-on retenir la même définition qu'on se place dans un contexte national ou international? Est un objet, la culture, c'est un objet de plus en plus prisé en tout cas, avec une valeur ajoutée tout à fait considérable. Si on veut ouvrir le champ culturel au sens le plus large du terme, on ne doit pas se limiter à ce qu'on appelle l'œuvre d'art ou à l'objet artistique, mais à tous ces objets qui sont aujourd'hui ceux de la communication, l'audiovisuel, et qui représentent aujourd'hui des volumes considérables d'échanges. Si évidemment vous introduisez l'ensemble du monde numérique et d'Internet, ça représente aujourd'hui le troisième poste de dépense des ménages dans le monde, après le logement et la nourriture ou l'habillement. J'ai plus exactement ces troisième ou quatrième postes. La dépense culturelle au sens le plus large du terme. On peut considérer aujourd'hui qu'un poste de télévision, quand même, c'est un objet culturel. Alors, on aime ou on n'aime pas ce qu'il y a dedans, mais enfin, c'est un objet dit culturel, qu'un ordinateur et ce qui procure l'accès au savoir, pas uniquement au savoir, mais aussi au savoir, c'est un objet culturel. Et donc, on parle là d'une réalité qui vraiment excède très largement ce qu'on peut appeler la part de rêve ou la culture au sens de petites variables d'ajustement qui fait qu'on va remarquer quelqu'un dans une conversation. Là, on parle de quelque chose qui véritablement, du moins du point de vue américain, est un objet de très forte valeur ajoutée. Alors, on peut y mettre des choses, d'ailleurs, dans les questions que vous évoquiez, on peut y mettre des choses qui sont des choses pas quantifiables, comme la démocratie, les droits de l'homme, laïcité, égalité. Bah, vous voyez que ça rentre bien dans la question malienne. La démocratie, c'est leur sujet. Démocratie ou tyrannie de la religion, avec les fondamentalistes, droits de l'homme et droits de la femme, évidemment. 65% encore, 70% je crois, d'excision au Mali, laïcité, vrai sujet, l'islam, évidemment, l'égalité. Donc, l'objet dont on parle, et cette guerre dure du Mali, c'est d'abord une question de culture. Et dans le fond, la question n'est pas tant des 5000 djihadistes qui sont dans leur jeep avec des armes qui viennent de Libye ou d'ailleurs, en partie d'ailleurs financée par différents biais qui font que c'est de l'argent américain qui a servi, plus un peu d'argent qatari et d'Arabie Saoudite. Mais enfin, qu'importe, il s'agit de 5000 hommes. Cette menace, elle est réelle parce qu'ils ont réussi à avancer. Ils sont allés d'abord à Tombouctou et le monde, tout d'un coup, a découvert que le Mali existait, que Tombouctou existait. Parce que Tombouctou, c'est quoi? C'est des manuscrits, c'est des tombeaux sacrés. Combien de personnes sont allées à Tombouctou? Très peu, mais... Cette ville mythique est dans la mémoire du monde, comme Alexandrie, comme un certain nombre de grandes villes qui ont été des grands foyers de civilisation. Et il se trouve qu'en effet, à Tombouctou, dans des bibliothèques, dans le désert, des manuscrits ont été conservés, dont la valeur est faible. Enfin, en soi, il n'y a pas de trésor, si ce n'est que là, dans cette ville, des manuscrits ont traversé, sinon des siècles et des siècles, hein, parce que c'est 3-4 siècles, mais représentent une valeur, et quand on s'est attaqué à eux, en tout cas ce n'est pas le cas d'ailleurs, plutôt on s'est attaqué au mausolée des prophètes, des sages musulmans, le monde a commencé à bouger, il y a eu des pétitions un peu partout, on s'est rendu compte que ces 5000 hommes qui envahissaient Tombouctou allaient plus loin. Et donc, ce n'est pas tellement une question de guerre ou de force militaire. Certes, aujourd'hui, la France a intervenu, d'autres pays vont intervenir, vont appuyer cette force militaire, mais ce sont clairement des valeurs qui sont menacées. Certes des hommes, certes des droits de l'homme. On a vu passer, en effet, toutes ces images d'amputation qui sont les résultats de la charia, mais c'est d'abord des valeurs dont, alors pour le coup, on emploie un mot qui parfois n'est plus d'usage ou usité ou mal perçu. Et tout d'un coup, l'Occident se dit qu'il y a un certain nombre de valeurs auxquelles on tient et qui ne sont plus respectées dans ce pays. Alors là, évidemment, je vais quitter quand même... le Sahel, on est dans une perspective assez défensive. On s'aperçoit que, y compris un petit pays où il n'y a pas d'enjeu énergétique, mais où il y a comme ça des objets symboliques, qui sont des objets de culture, et puis des objets importants de valeur, démocratie, droits de l'homme, laïcité, égalité, ces objets sont menacés. On est dans quelque chose de la défensive. C'est, la culture, c'est souvent se défendre contre. Nous-mêmes, en France d'ailleurs, on a pratiqué cette politique de défense dans les années 80, avec une politique culturelle très active, mais qui était une politique culturelle souvent défensive, celle que Jacques Lang, avec l'impulsion qui était la sienne, mais évidemment celle de François Mitterrand, a magnifiquement mis en place, à savoir une politique de protection, notamment de l'objet culturel qui n'était pas à leurs yeux, et ne l'est pas en tout cas pour nous Européens, une marchandise comme une autre, de protection à travers un certain nombre de systèmes juridiques, les quotas qui faisaient que tant de pourcents de la production du visuel devait être française, que la chanson française devait être protégée, que le prix unique du livre devait protéger la filière de l'édition et le livre d'abus ou de dumping qui pouvait être fait par un certain nombre de marchands qui étaient à l'époque les enseignes Leclerc. Mais donc on était là aussi dans une politique assez défensive. En gros, la France contre le reste du monde, l'exception culturelle, l'exception française, quelque chose d'intéressant d'ailleurs, au moment où se discutaient les accords du GATT, et donc des questions d'ordre commercial. Vous évoquiez dans une de vos questions la période du New Deal de Roosevelt. Il se trouve que, en effet, dans un ouvrage que j'ai sorti pendant, il y a quelques mois, pendant la campagne électorale, je rappelais ce qu'avait été le New Deal. Bon, vous le savez, sur un plan politique, ce qu'on sait un peu moins, c'est que dans la période qui était celle de Roosevelt, c'est-à-dire les années 20, 25, une période extrêmement difficile où la crise européenne qu'on a vécue, y compris du point de vue des Grecs, n'était rien par rapport à ce que les États-Unis éprouvaient pour la première fois, avec un taux d'inflation considérable, un taux de chômage très important. Dans le New Deal, dans le paquet New Deal de Theodore Roosevelt, il y avait un volet culturel très important. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis, d'ailleurs pour la première fois, qui sont construites sur un modèle extrêmement libéral et donc assez réticents à l'idée d'une politique culturelle, c'est la première fois que les États-Unis ont passé des commandes à des artistes, de manière assez étonnante d'ailleurs, puisque pour faire travailler des gens, Roosevelt a passé des commandes à des auteurs de théâtre, à des artistes, à des peintres, pour réaliser des peintures monumentales qui se trouvent d'ailleurs dans tous les musées américains et un petit peu à l'extérieur, dans les pays du Commonwealth. Des grandes fresques qui montraient les différents États américains, mais des commandes de pièces qui allaient être traduites après à peu près partout dans le monde, de grands auteurs américains qui sont devenus souvent des best-sellers, et puis des commandes faites au cinéma, la construction de l'industrie cinématographique. Car en même temps que Roosevelt commandait à des artistes des projets, il ouvrait les frontières, un peu le contraire de ce qu'on a fait ces dernières années, et faisait venir, il se trouve que les temps étaient hélas favorables, des années 20, 25, 30, 40, et faisait venir des créateurs du monde entier, notamment de l'Europe, et notamment des Juifs qui venaient d'Europe centrale et d'Allemagne, qui sont venus finalement... ce qu'on appelle le cinéma américain est quand même constitué largement de juifs hongrois, de juifs polonais ou de juifs tchèques. Et là, tout d'un coup, un autre élément nous apparaît, c'est que de culture, il n'y a pas de culture du sol. Il y a des cultures voilà, qui circulent, qui bougent, qui évoluent, qui se mélangent et qui se métissent. Et que le cinéma américain, c'est quand même un cinéma qui a été fait par des Européens à majorité juive, parce que l'histoire l'a voulu. Et parce qu'ils ont trouvé là, comme d'autres, des philosophes comme Hannah Arendt ou d'autres intellectuels ou des artistes français d'ailleurs aussi, pendant la guerre 39-40, un refuge, et plus qu'un refuge, une nation qui leur a donné la possibilité de créer. Alors, le New Deal, qu'est-ce que ça serait ? Ça serait de considérer que le soft power est aujourd'hui, pour un pays... mais aussi à l'échelle un peu plus large, multilatérale, européenne ou d'autres, que le soft power, donc la richesse culturelle, est probablement le meilleur investissement. Alors on en est assez loin aujourd'hui, après 6 mois de présidence de François Hollande, même si pour avoir travaillé avec lui, il est vrai qu'il était sensible à ses expressions, parce qu'elles étaient un peu à la mode à l'époque, enfin pendant les campagnes, tout ça est assez à la mode. Et que régulièrement, vous entendrez des hommes politiques, de droite comme de gauche, de dire aujourd'hui, en effet, que la culture, c'est fondamental, c'est au centre du projet. Enfin, très vite, les questions qui sont sociales, économiques, financières, prennent le dessus. On peut parfaitement le comprendre. En même temps, on peut s'étonner du fait qu'un pays, aujourd'hui, à une ressource principale qui est la ressource culturelle, puis j'essaierai de la préciser plus particulièrement, comme la France, n'investissent pas plus dans ce domaine. Imagine-t-on, par exemple, au Qatar ou en Arabie Saoudite, un ministre du pétrole avec aussi peu de pouvoir que le ministre de la Culture en France. Il a déjà très peu, mais il a encore moins depuis qu'il a rendu des moyens, près de 5% de son budget, pour l'année 2013, et puis on nous annonce une décrue régulière du budget du ministère de la Culture qui nous amènera à moins 15% en 2015. Alors imagine-t-on qu'en effet que le Qatar ou l'Arabie Saoudite ne misent pas plus sur le pétrole. À vrai dire, ils sont même allés au-delà puisqu'ils misent sur la culture maintenant. Alors là, tout d'un coup, fort de nos certitudes, de notre patrimoine, de notre, parfois notre arrogance, il faut regarder un peu la carte du monde. Et qu'est-ce qu'on voit quand on va à Doha, dans la, sur la corniche? On voit que ce pays n'a pas seulement investi, et loin de là, dans le pétrole, mais au contraire prépare l'après-pétrole, et que cet après-pétrole, il est essentiellement lié à cette marchandisation du savoir, de la connaissance et de la culture. Le Qatar n'a pas fait que racheter le Paris Saint-Germain, mais après tout, le sport aussi peut rentrer dans cet objet-là, culturel. De temps en temps, on convoque le sport, comme en effet, au moment de la Coupe du Monde de football, France-Brésil, dernier match, le match final, tout d'un coup, la France a repris un peu confiance en elle, puis tout d'un coup une vision s'est proposée au monde, qui était la vision black-blanc-beurre. Bon, tout ça est assez retombé, parce que quand même, un arabe reste un arabe, hein, donc c'est sympathique sur un terrain de football, mais un noir reste un noir, donc il faut quand même rester, il suffit derrière de regarder la composition de cette salle, dont je suis un représentant comme un autre, mais enfin quand même, tout ça n'est pas encore évident, même si en France, il y a près de 6 millions de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, on est encore une société qui est loin d'être arrivé, sinon au niveau de sophistication, mais au niveau de mélange, en tout cas, de la société américaine. Il n'est d'ailleurs qu'à voir un peu les réactions à la réélection d'Obama. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs américaines. Il n'y a eu quasiment aucune référence dans la presse américaine, même dans la presse européenne, au fait qu'Obama était noir. C'est fait. Voilà, c'est fait. Il est noir. Maintenant, il est président américain, il est réélu. Et il est intéressant parce qu'il est réélu d'ailleurs, et on voit bien qu'il est réélu et audacieux. Et audacieux, y compris sur des questions qui ne sont pas évidentes dans une société comme l'Amérique, par exemple sur les questions liées à la société, aux sociétés, à l'homosexualité. Dès son premier discours d'investiture, il a été beaucoup plus allant, si vous comparez un peu, au discours qu'on a pu entendre il y a ces dernières semaines, venant de la présidence de la République française, qui sont des discours quand même où on tâte l'opinion, enfin, on regarde un peu si c'est bien, pas bien. Il y a une manifestation, on va recevoir les opposants au mariage pour tous. Enfin, tout ça est quand même d'une timidité effroyable et décevant pour les gens qui se souvenaient qu'en 1981, contre l'avis général, ou en tout cas contre la majorité, le point de vue majoritaire français, François Mitterrand avait choisi d'abolir la peine de mort. C'était un choix assez fort à l'époque. On voit bien que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus timide en France, et qu'en tout cas, aux États-Unis, on est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, je reviens au Qatar, je reviens à l'investissement culturel. C'est vrai que quand vous allez à Doha, vous êtes frappé de voir que, tout simplement, ils ont construit un musée des arts islamiques, qu'il y a une bibliothèque qui est construite, qu'il y a un centre d'art, qu'il y a aujourd'hui dans l'ensemble de ces pays. Et tout ça s'est passé en 15 ans. Il y a 15 ans, je vous aurais parlé des Émirats et des pays du Golfe comme des pays de culture, mais enfin, personne n'y croyait. Moi, le premier, la première fois que je suis allé là-bas, je suis arrivé avec un nombre de préjugés très considérable. Tout n'est pas effacé, parce qu'il y a quand même... On arrive quand même dans des pays où, en effet, les principaux droits qu'on a évoqués... les droits de l'homme, les droits de la femme il y a une conception très particulière du sujet. Mais enfin, en même temps, l'investissement culturel est évident et personne ne conteste en France le fait que le Louvre va aller se produire à Abu Dhabi, que la Sorbonne s'est produite où d'ailleurs chez Abu Dhabi aussi, et que le Qatar n'arrête pas d'inviter des grandes personnalités intellectuelles en France, où les décors régulièrement, on les invite à Doha, et que là, il y a ce pays, ces pays-là, en tout cas, et d'autres, ont, à travers des biennales d'art contemporain, du marché de l'art, ont vraiment compris qu'il y avait un investissement culturel, un investissement d'image très important. Car en fait, aujourd'hui, je crois que c'est ça qui rend le soft power un enjeu nouveau, en tout cas depuis quelques années, ces enjeux sont des enjeux d'image. Qu'est-ce qu'on peut montrer de positif à travers cette planète des images qui est devenue la nôtre et qui fait qu'en permanence, sauf là pendant les quelques minutes qui sont les nôtres, des images vont circuler. Ce sont en effet des images dites positives. Daniel, peut-être que tu te souviens, quand on avait monté la France en Chine, Il y avait eu un entretien assez fameux entre le président de la République, toujours Jacques Chirac à l'époque, et son ou Jin Tao, je crois, son nom peut-être pas avant encore, son homologue chinois. Et donc les Chinois étaient arrivés avec... C'était l'année de la France en Chine, nous on était prêts à organiser 1000 expositions, 1000 spectacles, enfin voilà. Et puis les Chinois ne voulaient qu'une chose, ils voulaient juste, et ils avaient raison, que la tour Eiffel soit illuminée en rouge. Alors, sur le moment, ça a paru assez bizarre, et en même temps, c'était génial, parce que en effet, on s'y est mis, donc la tour Eiffel pendant, je ne sais plus, une semaine à peu près, était rouge. Et cette image a fait le tour du monde. Bon, évidemment, sur les écrans chinois, ça fait quand même des centaines et des centaines de millions de téléspectateurs chinois, mais partout, vous la retrouverez, vous mettez Tour Eiffel en rouge, vous la retrouverez sur le net, évidemment. Cette image a fait le tour du monde, et dans le fond, la France en Chine, c'était ça. C'était juste... c'était la Chine en France, plutôt, pardon. C'était, les Chinois sont à Paris, ils ont transformé...
Après, tous les autres pays ont demandé la même chose.
Oui, après, les autres pays ont demandé, mais enfin, c'était moins... Évidemment, c'était moins évident. Et c'était moins évident de proposer une image forte comme ça.
Sauf pour l'Europe, c'était bleu.
Oui, c'était bleu, oui. Enfin, c'est moins fort, en tout cas, dans l'imaginaire, c'est vrai. Donc, en fait, on fonctionne beaucoup à travers ces quelques images. Et ces images... circule à travers le net et globalement les programmes télévisés. Ces images sont aussi celles, par exemple, du Guggenheim à Bilbao. Vous verrez cette image-là. C'est un musée qui, franchement, à l'intérieur, n'a pas grand intérêt. Il y a exactement zéro objet, aucune collection. Enfin, il y a des millions de musées, enfin, des centaines de milliers de musées beaucoup plus... C'est intéressant parce qu'il y a des collections dans les musées en général. Là, il n'y a aucune collection. Ça vient directement des États-Unis. Mais l'image de cette chose extraordinaire, architecturale, a fait là aussi, je crois, le tour du monde. En tout cas, a transformé la réalité sociale, économique, financière de Bilbao, qui, pour ceux qui l'ont connu, c'était mon cas il y a 30 ans, était une ville totalement... sinistre. Lens à côté, c'était la Riviera. Bilbao, c'est vrai, qui connaissait des taux de chômage incroyables, a réussi, grâce à un objet culturel, à repartir de manière magnifique. Et le nombre de visiteurs qui viennent essentiellement voir cet objet est très impressionnant. Alors, ces histoires de soft power, on les connaît depuis très très longtemps. Et d'une certaine manière, nous en sommes, nous, les Européens, les premiers concepteurs. La Tour Eiffel, revenons à elle, est un objet qui, vraiment, dans l'imaginaire, c'est comme ça, hélas. Enfin, on aurait bien proposé d'autres nouvelles images. On a du mal, dans ce vieux pays, fier de son histoire. La Tour Eiffel est un objet culturel qui n'a pas été pensé comme tel, comme on le sait, mais qui est resté là, et puis peu à peu, c'est devenu un objet de représentation extrêmement fort. Mais c'est vrai que l'Europe, qui a pendant plusieurs siècles construit ces objets culturels, qui parlaient au monde, d'ailleurs avec des choses très simples, par exemple les méditations de Descartes, tirées à 250 exemplaires, étaient lues par toute l'Europe, c'est-à-dire les 250 savants qui existaient entre Amsterdam, Paris, Londres et un peu Madrid. Et un peu Lisbonne. Bon, Descartes était un auteur européen très connu, Mozart lui aussi. Et aujourd'hui, nous sommes, nous les Européens, bien en mal face à la diversité culturelle qui est heureuse, mais qui se met en mouvement, nous sommes bien en mal d'opposer un soft power actif. Pensons au Brésil, par exemple, allons chercher sur le continent latino-américain quelques exemples de ce soft power. Le Brésil, il y a 20 ans, 30 ans, après la dictature, enfin en pleine dictature, proposait des images qui étaient des images très miséreuses, qui dans le fond étaient aussi celles que l'Inde proposait. On avait une vision de Calcutta ou de Rio, de Saint-Paul, comme étant des métropoles d'un tiers ou d'un quart monde. Ben, il n'est qu'à aller dans ces pays pour voir que c'est là que les choses se construisent en ce moment. Et pas uniquement par des effets démographiques comme l'Inde ou la Chine, mais par des puissances qui sont certes des puissances commerciales, mais qui investissent beaucoup dans le domaine culturel. Les Chinois ont augmenté, je crois, de 5 fois leur budget de la culture en 2013, passer de 1 à 5. Voilà, nous, c'est le contraire, mais eux, ils sont passés de 1 à 5. Il y a quelques années encore, personne n'aurait eu l'idée d'apprendre le chinois. Aujourd'hui, grâce au Confucius Center, qui existe dans le monde entier, les universités, à leurs frais d'ailleurs, installent les Confucius Center pour permettre à leurs étudiants d'apprendre le mandarin. Quant au Brésil, c'est vrai que c'est un pays qui va avoir deux séquences considérables, qui sont des grandes séquences culturelles, de soft power, qui vont être retransmises dans le monde entier, alors que nous ne sommes pas fichus d'avoir d'autres célébrations pour les 10 ans à venir que la célébration de la guerre 14-18, ce qui est quand même entre nous, bon, c'est bien, mais enfin, c'était il y a longtemps, et puis c'est pas folichon, c'est très important le devoir de mémoire, mais enfin, c'est pas ça qui va ni vous donner un job, ni forcément envie de repeupler la planète, hein, la guerre 14-18. Mais c'est ça l'objet de la France, quand même. Là, on prépare, pendant 4 ans, ça va durer en plus, les célébrations 14-18. Ben, le Brésil, pendant ce temps-là, va inviter les Jeux Olympiques, et dans la foulée, ou je ne sais plus, non, le Mondial de foot. Voilà. Deux événements planétaires considérables, deux événements culturels qui vont faire entendre la musique brésilienne, montrer la diversité des cultures, et surtout montrer un modèle très réussi de métissage culturel. Les blancs et les noirs, et puis une société qui est vraiment inventive, créative, et qui, certes dans l'imaginaire, est largement portée par des images culturelles, le Carnaval de Rio, les festivals à Salvador de Bahia, les grands musiciens brésiliens, la littérature de Jorge Amado, bon, certes, mais qui là, en deux ans, je crois, 2016, je ne sais plus. 2014-2016, va avoir une séquence extraordinaire. Hein, donc vous voyez que, y compris en Amérique latine, qui il y a 20 ans était encore perçu comme étant un continent de dictature, on se dit qu'à se souvenir de l'Argentine d'il y a 20 ans ou 30 ans, du Brésil, de Chili, de tous ces pays qui étaient dans des histoires extrêmement sombres. Bien, justement, avec une espèce d'énergie qui est celle de la représentation, de l'idée du rayonnement, de l'échange, et pas tellement à travers des objets purement économiques. Il ne s'agit pas de gens qui spéculent, qui financent, et qui, c'est pas des traders dont on parle. Ce sont des gens qui ont des visions, hein, qui ont des visions, qui pensent que le Brésil, c'est au-delà du Brésil et qu'il faut en faire quelque chose. Alors, donc voilà, vous avez deux exemples, en tout cas, de pays. Tant l'Inde que le Brésil, j'évite la Chine parce que c'est un exemple très évident pour beaucoup de monde. Alors, dans tout ça, par exemple, on va revenir au Mali, si vous voulez bien, puisque ça vous manque depuis une demi-heure. L'Afrique, alors est-ce que l'Afrique a quelque chose à proposer? Oui, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser aujourd'hui. D'abord pour plein de raisons, c'est parce qu'en France, elle est très présente, et c'est tant mieux, à travers des compatriotes qui sont d'origine africaine, mais aussi d'autres qui vivent dans des conditions parfois difficiles, mais qui sont ici en France maintenant, nombreux, qui vont être de plus en plus nombreux. Hein, il faut se dire que malgré toutes les politiques qui vont être imaginées, les étudiants africains vont vouloir aller étudier dans une université, alors ça sera peut-être pas la France, c'est beaucoup le Canada maintenant, parce que c'est très difficile d'avoir un visa pour venir. Mais il va y avoir un mouvement de mobilité considérable. Alors, repensons un peu à cette carte de l'Afrique. Il est évident qu'avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays, le Nigeria, on a des puissances économiques qui commencent à peine, mais ça commence à arriver, vont produire aussi des images, des représentations fortes. Moi, je parie que dans 10-20 ans, les images extrêmement négatives qui sont celles des pandémies, du sida, de la surpopulation, de la polygamie, de tout ce qu'on veut, enfin bon, bref, tous les mots africains, que tout ça va être transformé dans des images parfois très positives. Alors, prenons juste un chiffre pour comprendre qu'il y a des enjeux importants pour nous, Français. Alors, soyons un peu égoïstes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Les enjeux démographiques, ils sont parlants. Il y a aujourd'hui 200 millions de francophones. Je crois que c'était un point que vous évoquiez dans vos questions. Il y a 200 millions de francophones dans le monde. Il y en a 100 millions au nord. France, Belgique, Suisse, Canada. Suisse, Canada. France, Belgique, Suisse, Canada, oui. 100 millions au nord et 100 millions au sud. J'ai oublié la Roumanie, pardon. 100 millions au sud. Afrique subsaharienne et Maghreb. En 2050, selon les chiffres fournis par l'Organisation internationale de la francophonie, il y aura 600 millions de francophones. 600 millions au lieu de 200, il y aura 100 millions au nord, France, Belgique, Suisse, Canada. Ça, on ne sera pas plus reproduit, même plutôt moins, et 500 millions au sud. 500 millions, Afrique subsaharienne, Maghreb. Il se trouve en effet que, en raison de l'histoire, cette partie du monde parle français. Aujourd'hui, la francophonie, je crois que ce n'est pas porteur, enfin, ça ne fait rêver personne, c'est presque le nom d'une maladie, enfin, on ne sait pas très bien ce que c'est. Enfin, personne ne fait d'ailleurs le lien entre la francophonie et le fait qu'il y a... ma fille, moi, est togolaise, donc elle est noire, mais elle est francophone, d'une certaine manière, même si elle est française aujourd'hui. Personne ne fait le lien entre ces populations qui vivent en France, ces personnes qui vivent en France, qui sont d'origine subsaharienne, maghrébine, mais qui sont francophones. Hein. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne se disent pas francophones. Or, c'est quand même ça. La réalité, c'est que ce cercle de Français ou de personnes qui vivent en France est un cercle qui va s'élargir de manière considérable et que probablement le centre du soft power qui est aujourd'hui à Paris, dans le 5e arrondissement, mettons par exemple, avec nos grandes écoles, universités, dans le 7e avec l'édition Gallimard, bon, voilà, nous sommes des objets prescripteurs. Un étudiant qui veut réussir, francophone, va essayer d'entrer à l'école normale supérieure. Un auteur du Burkina Faso qui veut devenir un écrivain important va envoyer son manuscrit à Gallimard ou à Grasset, voilà, au quartier latin. Il est probable, dans 20-30 ans, que si des industries culturelles se mettent en place sur ce continent-là, le cœur de la francophonie, d'autant plus que les croyants ne sont pas là, on y croit guère en France, le cœur de la francophonie sera plutôt à Dakar et que peut-être, nous, auteurs français, on enverra nos manuscrits à Dakar et c'est comme ça, c'est très bien. Parce que là, il y aura démographiquement, avec un accès à l'éducation qui ne sera pas parfait, loin de là, mais qui va se renforcer avec un développement de la formation sur ce continent africain, il y aura là, à travers la langue, qui est quand même un espace de valeur, de représentation fort, même si on peut parler d'autres langues, certes, mais la langue est quand même un élément important, et la force du monde anglo-saxon, c'est quand même largement l'utilisation d'une langue commune. Il faut penser 20 ou 30 ans en avance et se dire qu'il y a un réseau social qui est en train de se construire, intéressant d'ailleurs, quand je dis réseau social, j'emploie ce terme volontairement, Facebook, Twitter, qui s'est construit dans le Maghreb, qui a accompagné, sinon permis, mais en tout cas largement accompagné les révolutions de Tunis et puis celle du Caire. Mais ce réseau social francophone, il est pour l'instant pas très actif. Il est très dévalorisé, ce sont des vieux barbons de l'Académie française qui le portent, mais c'est surtout la réalité d'une jeunesse incroyablement vivante, tunisienne, algérienne, marocaine. Vous imaginez tous ces gens-là, ils ont 15, 20 ans, ce qu'ils vont peser dans le monde. Ils vont peser dans le monde, d'autant plus qu'ils vont avoir la capacité de négocier avec le monde, beaucoup plus que nous, puisque pour certains d'entre eux, notamment ceux qui sont frontaliers de pays d'Afrique anglophone, ils parlent l'anglais. Mais ils parlent l'anglais, ils parlent l'arabe, ils parlent le français. Ils sont jeunes, ils n'ont pas connu beaucoup la démocratie, donc ils vont avoir extrêmement faim et très envie de réussir leur vie. Et donc, intéressons-nous à cet espace-là, qui d'ailleurs, de bien des manières, me paraît, moi, plus prometteur, en tout cas en termes de soft power, que l'espace européen. On va dire deux mots de l'Europe, parce que c'est vrai que il est frappant aujourd'hui, l'Europe telle qu'elle a été constituée. Moi, je me souviens de 1989, je suis arrivé à Prague, en passant par Berlin, chute du mur de Berlin. Nous avons été très, très nombreux à croire que là, quelque chose de très important allait se construire. Alors, ça s'est construit, certes, dans la construction européenne, avec l'élargissement, mais avec la réalité de l'élargissement et puis les douleurs de l'élargissement. Mais il faut reconnaître que sur le plan culturel, c'est un échec complet. C'est un échec complet aujourd'hui par un principe qui est celui de la subsidiarité, qui est un principe extrêmement nocif que je combats violemment, qui est que finalement tout peut être, toutes les frontières peuvent être abolies, tout peut être échangé au sein de l'espace des frontières de Schengen. Mais la seule chose qui doit rester nationale, c'est la culture. Et donc Bruxelles, selon ce principe, qui est qu'on ne doit pas fabriquer une culture européenne, on ne doit pas imposer une culture européenne, impose ce principe de subsidiarité qui fait que ce sont les États qui doivent financer leur culture, leur folklore, leur patrimoine. La Bretagne aux Bretons, par exemple. Voilà. En gros, le type de messages qui sont portés par Bruxelles. Alors qu'on a un espace culturel qui est quand même extrêmement ancien. En plus, on n'est pas en train de l'inventer. Les marchés, les foires, les cathédrales, enfin tout ça a extrêmement bien fonctionné pendant des siècles. Une culture européenne s'est construite. Spinoza, Descartes étaient des auteurs européens. Je le rappelle, Mozart allait servir dans tel et tel cours, était un auteur qui était joué partout en Europe. Là, on revient à une espèce de vision assez terrifiante des cultures nationales, régionales, et au refus d'une culture européenne. Dans le projet de constitution européenne qui a été rejeté, il n'y avait aucune mention de la question de la culture. Aucune mention de la question de la culture. Alors que c'est central. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? D'abord, c'est un grand marché de culture, un grand marché culturel qui s'est construit à travers les siècles. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, grâce à la politique agricole commune, est importante. Je rappelle qu'une vache, enfin un animal à cornes, est 2000 fois plus subventionné qu'un créateur européen. C'est important, la vache, la bidoche, tout ça, mais quand même, c'est assez sidérant de voir que nous n'avons pas réussi à construire, et c'est un des regrets d'ailleurs qui a été formulé il n'y a pas très longtemps dans une conversation que j'avais avec lui par Jacques Delors quand il était président de la Commission européenne, c'est que en 1985, c'est qu'on n'ait pas construit une industrie culturelle européenne. Il n'y en a pas. Il y a une industrie aéronautique, qui était un grand projet de l'après-guerre, de De Gaulle en l'occurrence, qui a permis, qui permet aux Allemands, aux Britanniques, aux Espagnols et aux Français de fabriquer des avions, des Airbus. Et c'est pas mal quand même. Ça se passe à Toulouse, à Montaudran, sur un territoire d'histoire qui est celui de l'aéropostale, donc dans une tradition comme ça, mais en même temps on fabrique des objets extrêmement modernes qui nous permettent de dialoguer avec une certaine aisance avec les Américains qui ont Boeing en face. C'est quand même bien d'avoir cette possibilité du dialogue. Alors nous, qu'est-ce qu'on a comme possibilité du dialogue aujourd'hui avec les Américains ? Rien. On a des musées. C'est vrai qu'on a des musées à offrir et que nous sommes aujourd'hui, c'est Michel Houellebecq et toujours assez rapide dans ses analyses, mais très juste, en train de dire qu'on est dans un processus de muséification en France qui est considérable. Nos musées sont remarquables, mais on construit pas un projet d'une nation, d'une jeunesse, en célébrant autant les musées. Les Américains, en effet, ont construit après l'industrie culturelle, de la musique, du cinéma, donc après... après Hollywood, après avoir en effet conquis une part de marché considérable dans le domaine des musiques, ont eu cette intuition sidérante, des années 80, du net. Pendant ce temps-là, nous commandions des rapports, c'était Giscard, qui commandait des rapports qui n'étaient pas plus en retard sur l'informatisation de la société, on commandait des rapports à Simon Nora et Alain Minc, sur ces questions-là, et nous lancions un produit qui allait révolutionner le monde, que vous connaissez bien, qui est d'ailleurs très utile à nous tous, qui s'appelle le Minitel. Voilà, ça c'était le projet français, relisez, j'ai fait un peu pour mes livres, relisez à l'époque la littérature sur le Minitel, enfin, c'est assez extraordinaire. Hein. Et pendant ce temps-là, les Américains qui ont déjà tout, hein, ils ont déjà conquis le monde avec leurs films, avec leurs séries, avec leur musique, etc. Ils auraient pu se contenter de ça. Donc voilà, une sorte de nouvel impérialisme culturel contre lequel on luttait. Jacques Lang était là, lançait la fête de la musique, avec beaucoup d'éclat et parfois un petit peu d'emphase. Mais enfin bon, il y avait une foi réelle dans tout ça. Pendant ce temps-là, les Américains inventent cette chose. On pensait qu'ils étaient épuisés, le nouveau continent était fatigué. Pas du tout, ils inventent cette chose incroyable qu'ils ont développée, et qui font surtout qu'aujourd'hui, le numérique, qui est vraiment un produit à valeur ajoutée considérable, enfin, la force du numérique n'est plus à démontrer, et ben, dans la Silicon Valley, ils ont construit là un nouvel empire, une nouvelle Alexandrie, tout ce qu'on veut, une nouvelle Babylone, enfin, voilà, l'empire, il est là. Et il s'appelle, vous additionnez l'ensemble de ces multinationales, qui sont quand même d'abord des entreprises américaines, hein, car elles sont multinationales, ça leur permet de ne pas payer des impôts là où elles exercent leur génie, mais bon, ce sont des entreprises américaines, faites par des Américains, des gens de votre âge, hein, je ne sais pas ce que vous foutez là, dans le sillage de Sartre, c'est sympathique, mais ça ne sert à rien. À 25 ans, ils sont en train d'inventer Facebook, Twitter, Google, Microsoft. Enfin, c'est toutes des histoires de mecs de 25 ans, hein. Plutôt des hommes d'ailleurs, souvent. Plutôt des garçons. Même beaucoup des garçons. Mais enfin, ils inventent tout ça. Amazon, enfin, ce n'est que l'histoire, en effet, d'un transfert génial entre l'université. Car aux États-Unis, c'est vrai qu'il n'y a pas cette espèce de coupure mortifère qu'il existe en France entre la science et la culture, entre l'économie et la connaissance. Hein. Et c'est vrai que ce transfert extraordinaire, ce passage de l'université, des campus de l'Ouest américain ou même de l'Est américain, à immédiatement le lancement de start-up et d'objets surpuissant, Google est un exemple, enfin il y en a plein d'autres, fait aujourd'hui que les Américains pèsent d'un poids absolument considérable dans ce domaine évidemment du numérique où nous sommes très inexistants et le retard est irrattrapable. Jamais on peut imaginer que l'Europe va construire des Airbus numériques capables de dialoguer ou en tout cas d'être dans un rapport assez stimulant avec des Boeing numériques américains. Donc c'est quand même frappant que cette Europe-là, qui était inventive, qui a tout inventé, elle a inventé tous les moyens de reproduction jusqu'au numérique, c'est l'Europe qui l'a inventé. L'imprimerie, principalement, et l'image. La photographie, l'image animée, le cinéma, c'est l'Europe. Là, on a raté cette troisième révolution de la représentation et c'est une révolution dont on sait aujourd'hui ce qu'elle permet d'ouverture. Il n'y a pas que du bien, mais enfin, il y a quand même une possibilité d'accessibilité absolument universelle dont les bibliothécaires d'Alexandrie, évidemment, rêvaient, mais 2000 ans, 2500 ans après, les Américains l'ont inventé. Partout dans le monde, les rapports de force, avant d'être purement économiques ou purement marchands, sont des rapports culturels, sont des rapports liés à la confiance qu'un pays peut avoir en lui, à sa capacité de vision, à sa capacité de rayonnement, d'imposition, d'exportation. Et il est vrai que, moi je suis frappé de voir qu'en France, pays qui a vraiment tout pour lui, 80 millions, premier pays, on n'est pas premier en grand-chose. Hein. On est premier dans l'accueil des étrangers. Non pas pour la qualité de l'accueil des étrangers, loin de là, mais on est premier en nombre, puisqu'on a, avec les 80 millions d'entrées sur notre territoire français, on a le record du monde. Près de 75% de ces personnes qui viennent en France disent, d'après des enquêtes qui ont été menées, qu'ils viennent pour des raisons d'ordre culturel. Ils viennent en France, en effet, principalement parce que des images se sont construites à travers le temps, qui sont celles du patrimoine, qui sont celles du paysage, qui sont celles de l'art de vivre. Et là-dedans, vous pouvez mettre, et ce sont des objets économiques, hein, le parfum, la cuisine, la mode, tous ces objets sont des objets culturels. Et c'est eux, en effet, avec l'ensemble du patrimoine français, qui font que la France est le premier territoire de visite au monde. Voilà. Alors, tout, malheureusement, montre que nos politiques, je ne parle pas de la société civile, hein, loin de là, mais que tout montre que nos politiques n'y croient pas et n'investissent pas. y compris à gauche, par exemple, où très longtemps, la connaissance, la culture représentaient des foyers électoraux non négligeables. Je suis frappé de voir qu'en effet, ces hommes politiques n'ont pas été construits souvent à travers cette familiarité avec l'objet culturel. Ils sont passés, ont fait des études un peu formatées, et donc n'ont pas été construits à travers ça, comme Mitterrand a pu l'être. Et que finalement, ils ont des mots pour le dire, ils ont des phrases polies, mais l'investissement dans le domaine culturel est loin d'être la règle. Au contraire, on considère que la culture est une dépense. Il y a une sorte de consensus qui est en train de se construire, à gauche comme à droite. C'est une dépense qui n'est pas rentable. Vous allez voir dans quelques semaines ou quelques mois la résurgence de discours sur les intermittents du spectacle, parce qu'il y a la renégociation de l'accord sur les intermittents. Et là, on va montrer en effet que le régime des intermittents est injuste, parce qu'il est financé de manière injuste et que tout ça finalement ne sert peut-être à rien. Et je vois moi plutôt un mouvement de repli. Alors que bien des pays, pas uniquement le Brésil ou l'Inde ou la Chine, mais aussi les pays d'Europe centrale, je pense à la Pologne, commencent à comprendre qu'il y a un investissement culturel qui mérite que nos budgets ne baissent pas. Alors malheureusement en Europe, les budgets communautaires sont toujours très faibles. Il y a encore très peu de temps, je crois que c'est arrangé depuis, mais l'Europe se tâtait encore le pouls pour savoir si elle était capable de payer le programme Erasmus. C'est quand même extraordinaire que ce grand pays, enfin, c'est 27 pays, Erasmus c'est pas 27 pays, mais en tout cas c'est ces pays qui sont fondateurs des grandes universités, des premières grandes universités, n'arrivent même pas à trouver les moyens pour financer le seul programme un peu vaillant dans le domaine de l'échange de la connaissance à un niveau européen, qui est un programme formidable, Erasmus, mais il y avait une impasse financière. On trouve de l'argent pour recapitaliser la Grèce ou d'autres pays, mais pour ça, on ne trouve pas. Donc, cette économie de la connaissance, dont vous trouverez la trace dans plein de discours politiques, souvent à la veille des élections, elle n'est pas un pari aujourd'hui. Il n'y a pas de pari fait sur la connaissance, le savoir. Or, c'est avec la connaissance, avec le savoir, avec la culture, avec des objets culturels, que des États vont se distinguer, des fédérations d'États vont constituer des ensembles économiques viables. Je terminerai peut-être en vous donnant quelques chiffres. Aujourd'hui, le budget de l'Union européenne pour des programmes culturels, c'est de 400 millions d'euros sur 7 ans. Enfin, les budgets strictement fléchés culture, il y a plein d'autres programmes. 400 millions, c'est le budget de production du film Titanic. Donc ça, c'est le budget de l'Union européenne sur 7 ans. Que vous dire qu'il y a 500 millions de consommateurs en Europe, c'est considérable. Il y a 300 millions de consommateurs aux États-Unis. Qu'un film américain, quand il est produit, même si c'est un très grand succès, sera tout juste rentable aux États-Unis, et qu'il ne commencera à gagner de l'argent qu'en sortant de son territoire. Et où est-ce qu'il sort ? Il sortira en Europe. C'est là où il va faire ses bénéfices. Ce n'est pas en Asie encore. Ça viendra bientôt, mais ce n'est pas encore en Asie, c'est en Europe. C'est principalement en France et en Allemagne qu'il va pouvoir gagner de l'argent. Donc il est frappant de voir qu'en effet, alors que nous avons un marché... certes problématique en ce qu'ils ne parlent pas toujours la même langue, loin de là. Sur les 27 pays de l'Union européenne, nous parlons 23 langues différentes. Ça n'aide pas, certainement. Enfin, il y a un mouvement aujourd'hui qui fait que l'anglais s'impose. Mais c'est frappant de voir que ce marché, qui est considérable, 500 millions, qui est très éduqué, qui est très consommateur de produits culturels, beaucoup plus que les Américains. Nous consommons beaucoup, y compris particulièrement en période de crise. Plus ça va mal, plus on sort. On a du temps, c'est vrai, mais enfin, on pourrait déprimer. En tout cas, on déprime, mais on va au cinéma, on achète des livres, on consomme des produits culturels. Donc là, il y a un foyer formidable et que, dans le fond, nous sommes devenus de plus en plus passifs, de plus en plus consommateurs. Puis je terminerai en citant juste une enquête. Aujourd'hui, une enquête a été faite il y a quelques années dans les 27 pays européennes, ou les 23 à l'époque, je ne sais plus. On demandait à des échantillons dans chaque pays qui sont les artistes que vous connaissez. Et dans l'ensemble des pays, les gens citaient, on leur demandait deux artistes, ils citaient un artiste du pays, toujours, de leur pays, et un artiste d'ailleurs. Mais jamais un artiste d'un autre pays européen. D'ailleurs, citez-moi un chanteur allemand. Il y en a un ? Enfin bon, pas facile. Mais, si, mais le, l'autre citation était toujours celle d'un artiste américain. Que dans le fond, aujourd'hui, l'Amérique, très étrangement, a réussi, avec des mutations, avec des périodes de détestation immenses. Bon, il y a encore 10 ans, Bush, tout ça, les gens n'aimaient pas tellement. Enfin bon, Obama, c'est un peu la mode maintenant, mais l'Amérique a réussi à être l'objet culturel autour duquel les Européens se reconnaissent. Il n'y a pas d'objet culturel européen. Quel est le grand artiste européen ? Quel est le grand écrivain européen ? On a du mal à en parler, alors que je vous citais Mozart et Descartes il y a à peine 5 siècles, ou 4 siècles pour Mozart. Voilà, il y a des enjeux considérables, il y a beaucoup d'argent en jeu, ça représente des milliards et des milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est puissant, les guerres se construisent largement à partir de ces questions d'influence, de pouvoir, de puissance. Les guerres douces, celles que les diplomates mènent, sont probablement des guerres qu'il faut mener. Mais en tout cas, en France, on n'a pas décidé de partir à l'assaut de quoi que ce soit. Moi, je ne vois pas, en tout cas, dans les initiatives récentes, hein, je ne parle pas uniquement de ce gouvernement, loin de là, dans les 10 dernières années, d'idées, de projets un peu conquérants, comme ça, qui vont faire que la France va se trouver, au-delà de sa mémoire, de sa réputation, de son histoire, un peu plus au centre du monde qu'elle ne l'est déjà ou qu'elle ne pense l'être. Et c'est un peu surprenant, parce qu'on est quand même largement à l'origine de ces questions de diplomatie culturelle, terme un peu daté, certes, mais qui remonte à une période où les Lumières, en l'occurrence, Diderot, Rousseau, imposaient des valeurs au reste du monde, et il n'y avait pas de constitution, de démocratie qui pouvait se construire sans des références à des auteurs de l'encyclopédie. Nous sommes relativement loin de cette époque-là. Voilà.